mais que se passe-t-il?
Mais que se passe-t-il?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe?
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les nouvelles du monde pour ce mardi 26 mars, un petit peu pluvieux quand même. Et on va commencer notre petit tour du monde en partant aux États-Unis avec une suite d'une info dont je vous avais parlé la semaine dernière. Une mauvaise nouvelle, j'avoue que j'espérais très fortement voir la Trump Tower saisie par des huissiers et voir la gueule à Donald Trump. Mais ça n'arrivera pas puisqu'il a bénéficié d'un allègement de 279 millions de dollars. C'est hier que la cour d'appel de l'État de New York a donné donc un petit répit et même une grosse bouffée d'oxygène à Donald Trump en ramenant son amende à 175 millions de dollars. Ça, c'est la somme qu'il devra payer suite à sa condamnation au civil pour fraude financière. Il était condamné à 454 millions de dollars d'amende. Mais la cour lui a donné donc 10 jours à lui et ses deux fils, Eric et Don Jr., de rassembler la somme. Ils ont été condamnés pour fraude financière au sein de leur empire immobilier Trump Organization. Avant cette décision, quand je vous en ai parlé la semaine dernière, l'ancien président des États-Unis devait fournir la garantie qu'il paierait bien ses 454 millions avant lundi. C'était le délai qui lui était imparti, personne ne voulait lui prêter et il n'avait pas la somme. Mais donc la cour lui a donné un petit peu d'oxygène en enlevant 279 millions de dollars à cette amende. Il pourrait les payer certainement plus tard. Cela dit, en parallèle et dans une toute autre affaire, Trump a aussi, par contre, échoué à faire reporter un de ses procès. C'est un procès pénal qu'il concerne dans l'affaire Stormy Daniels. C'est le nom d'une actrice porno avec laquelle il aurait eu affaire. La justice a annoncé donc que ce procès pénal commencera le 15 avril, en rejetant donc la demande de la défense de lui accorder un nouveau délai. Alors, dans ce procès, il est accusé d'avoir maquillé les comptes de sa société, donc toujours la Trump Organization, qui fait de l'immobilier, avec cette fameuse tour qui brille là, à Las Vegas. Eh bien, il aurait maquillé ses comptes pour dissimuler les 130 000 dollars qu'il a versés à cette ancienne actrice de film X, pardon. Ces 130 000 dollars ont été versés d'ailleurs juste avant son élection en 2016. Il a plaidé non coupable des 34 accusations comptables qui ont été faites à son encontre, qui peuvent lui faire encourir jusqu'à 4 ans de prison. L'ancien président américain a toujours qualifié cette affaire de bidon et il a nié toute relation sexuelle avec Stormy Daniels, alors qu'il était déjà marié à sa femme, Melania.
Il y a de quoi se vendre la gueule, non ?
Bon, allez. On quitte cette ambiance un petit peu de mauvaise série américaine, mais on reste aux États-Unis et on va parler encore de l'avenir possible de l'avortement et de la pilule abortive notamment. Pour les défenseurs du droit à l'avortement, justement, ces prochaines heures s'annoncent cruciales à cause d'une décision qui est attendue de la Cour suprême américaine sur cet épineux sujet donc de l'accès à la pilule abortive. C'est aujourd'hui qu'on en discute donc au sein de la Cour suprême et le sujet c'est la restriction ou pas de l'accès à cette fameuse pilule abortive. Elle laisse craindre un nouveau recul majeur pour le droit à l'avortement dans ce pays plus divisé que jamais sur la question. Une décision qui irait donc dans le sens inverse d'une ouverture de ces droits de la Cour suprême puisqu'elle est plutôt à forte tendance conservatrice et crainte. Et en plus de cela, en plus des conséquences directes sur le droit à l'avortement des femmes américaines, ça remettrait en plus en cause l'autorité scientifique même de la FDA. La FDA, c'est la Food and Drugs Administration, l'agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux. Ils ont mis les médicaments et la nourriture dans le même panier. Cette décision définitive donc, est attendue entre fin juin et début juillet selon la presse américaine, mais ça fait peser une menace non négligeable donc, sur la FDA, dont la mission principale, c'est de déterminer l'efficacité et la sécurité des médicaments, et donc de l'alimentation aussi. La pilule abortive, elle est autorisée aux États-Unis depuis l'an 2000 par la FDA, et elle est sollicitée par de nombreuses femmes, puisque 2/3 des IVG aux États-Unis se font par l'intermédiaire d'un avortement médicamenteux, grâce à cette fameuse pilule. Cette méthode est particulièrement sûre et sans risque majeur pour la santé, par rapport à une opération chirurgicale par exemple. Ces dernières années, ce recours, donc la pilule abortive, avait connu une accélération drastique dans son utilisation, sous l'impulsion justement de la fameuse FDA, qui a étendu l'accès à cette pilule en 2016 en permettant la prescription de l'IVG médicamenteuse jusqu'à 10 semaines de grossesse. Et auparavant, on était à 7 semaines. Et en plus, la FDA a aussi autorisé qu'on puisse avoir accès à cette pilule après seulement une consultation médicale au lieu de 3 auparavant. Donc un accès facilité. Le passage du Covid-19 avait d'ailleurs poussé aussi la FDA à élargir davantage l'accès en autorisant l'envoi des pilules par service postal après une simple visio, une téléconsultation. Ça s'était fait aussi, je crois, au Royaume-Uni. Mais, c'est là qu'il y a un mais, l'opération de lobbying de nombreux médecins américains qui sont opposés à l'avortement a payé, et ça conduit donc la justice américaine à se pencher sur l'hypothétique restriction de l'accès à la mifepristone. Ça, c'est le nom d'une de ces deux pilules majoritairement utilisées, la mifepristone. Une cour d'appel avait déjà pris la décision en 2023 de rétablir l'accès à cette pilule abortive telle que définie avant les modifications de 2016 et 2021. Donc les dernières avancées des 2016 et 2021 avaient déjà été retirées par une cour d'appel. Et vous savez qu'aux États-Unis, ça se passe aussi par État. Les récentes décisions, notamment de la Cour suprême, très conservatrice, rendent donc assez peu optimistes pour la suite. C'est par exemple la Cour suprême qui avait annulé la garantie fédérale du droit à l'avortement en 2022, ce qui avait justement permis à chaque État américain de légiférer selon sa volonté. Depuis 2022, plus d'une quinzaine d'États ont d'ailleurs rendu l'avortement illégal sur leur territoire, ce qui comprend aussi la prescription de pilules abortives. Alors, outre cette nouvelle menace pour l'accès à l'IVG aux États-Unis, je vous le disais, c'est aussi la remise en cause de cette institution, malgré tout, qui est la FDA, qui inquiète particulièrement toute la communauté scientifique. Car la Cour suprême, si elle venait donc à contredire les recommandations de la FDA, ça infligerait un véritable camouflet à cette agence fédérale, et une agence fédérale qui est en plus scrutée à l'échelle mondiale. L'autorité scientifique de la FDA sert de boussole dans de nombreux pays, avec les conséquences que ça peut avoir, parce qu'ils sont pas non plus ils sont pas hyper réglo sur tout, notamment l'utilisation de certains médicaments opioïdes ou par exemple tout ce qui est lié à l'alimentation et aux phytosanitaires dans l'alimentation. Bref, c'est une parenthèse. En tout cas, si la FDA venait d'être complètement sapée, on se retrouverait dans une situation un petit peu chaotique au niveau des décisions de santé publique. Et ainsi, par exemple, d'autres traitements pourraient se retrouver menacés. Déjà en premier lieu, les moyens de contraception, mais aussi les vaccins. Auprès de l'AFP, l'experte en santé publique à l'université George Washington, qui s'appelle Liz Borkowski, expliquait déjà voir poindre la menace de contentieux infondés contre toutes sortes de médicaments utilisés depuis des années, simplement parce qu'une organisation y est opposée. Et vous le savez certainement, le poids des religieux et notamment des évangélistes en Amérique est de plus en plus puissant. Ça provoquerait par exemple un risque non négligeable pour le développement de traitements innovants ou des investissements dans certains médicaments qui pourraient ensuite être remis en cause par la justice, au même titre donc que l'ensemble des médicaments diagnostiques et les bases d'analyse scientifique qui sont approuvées par la FDA. Même les processus de validation médicaments pourraient se retrouver un petit peu sans fondement. Et je vous le disais, pas seulement en matière de médicaments, puisque la FDA gère toutes les questions de santé publique aux États-Unis. Voilà, c'est un article du Huffington Post qui nous informe de tout cela et que vous pourrez retrouver bien évidemment sur leur site.
Quoi ? Ouais, vas-y, prends un avocat, ok, tu vas voir. Ok, ouais, c'est parti, allez, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Allez, on y va, c'est parti.
On revient en France et on va parler d'une plainte, enfin de deux plaintes même, déposées par France Nature Environnement. C'était ce vendredi 22 mars, auprès de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Depuis Sainte-Soline, le gouvernement n'a eu cesse de criminaliser les défenseurs de la nature et d'étouffer la démocratie environnementale dans une logique de contrôle et de répression de la société civile. C'est ce qu'on peut lire dans le communiqué donc de France Nature Environnement, qui est la plus grosse association environnementale du pays. Elle soumet deux cas particulièrement au rapporteur spécial des Nations Unies sur les défenseurs de l'environnement, le fameux Michel Forst, qui s'était rendu sur la ZAD, qui tente d'empêcher la construction de la 69 à côté de Toulouse. Le premier cas, eh bien, c'est l'Association de protection, information et étude de l'eau et de son environnement, l'APIEEE, qui s'est vu retirer des financements et exclure des comités locaux de la politique de l'eau après la manifestation justement de Sainte-Soline d'il y a un an. C'était le 25 mars 2023. FNE, donc France Nature Environnement, estime que cette association paye en réalité sa mobilisation, notamment juridique, contre les méga-bassines, et ces financements s'en sont vus retirés, certainement par des pressions du gouvernement. Le second cas, qui fait aussi l'objet d'une plainte auprès de l'ONU, ça concerne l'association Alternatiba de Poitiers. C'est dans les colonnes de reporters que l'affaire avait été racontée en 2022, à savoir que le préfet de la Vienne, Jean-Marie Girier, avait demandé à la commune de Poitiers et à l'agglo du Grand Poitiers de retirer là aussi leur subvention à cette association. Il estimait notamment que la formation à la désobéissance civile qui était prodiguée par cette association était contraire au contrat d'engagement républicain. Le contrat d'engagement républicain, c'est un dispositif très récent qui est d'ailleurs très décrié par le monde associatif. FNE, donc, France Nature Environnement, dénonce un climat de violence et de répression croissant contre les défenseurs de l'environnement. Rien que dans notre mouvement, disent-ils, depuis 2015, nous recensons plus de 50 agressions, atteintes aux biens et menaces envers nos militants partout en France. Des violences illégitimes que l'État choisit de tolérer, pire même de perpétrer, comme ils font référence notamment à l'affaire des écureuils dont on va parler juste après. Voilà, donc ça c'est le communiqué de l'association qui a donc porté deux plaintes auprès de l'ONU. Bon, ça restera certainement plus symbolique qu'autre chose, mais quand même ça fait un petit peu parler au niveau international et c'est toujours ça de gagner.
Quand on vous informe, on vous dit ce que vous êtes censé devoir croire. Ce qui revient à dire que l'information, c'est exactement le système du contrôle.
Waouh, ça fait peur. L'abattage des arbres, justement, de la forêt de la Crémade du côté de Toulouse a été suspendu jusqu'au 1er septembre. C'est donc une victoire pour les écologistes perchés dans les arbres qui tentaient d'empêcher cet abattage, ce qu'on appelle les écureuils. Ces militants ont donc enfin pu redescendre de leurs arbres après avoir été quand même harcelés et affamés par les gendarmes pendant 40 jours. C'est ce à quoi faisait référence aussi l'info précédente. Une atmosphère particulière régnait donc sur cette ZAD qui s'appelle la Crème Arbre. On est sur la commune de Saïx, dans le Tarn. Ce dimanche 24 mars, après 40 jours de siège policier, les sourires marquaient les visages, les militants se congratulaient et l'air semblait à nouveau respirable. La raison, c'est que l'OFB, l'Office français de la biodiversité, a bien confirmé lors d'une audition judiciaire vendredi dernier l'enjeu environnemental très fort de cette forêt et donc l'impossibilité pour la société Atosca, qui est le gestionnaire qui va développer la 69, de défricher cette zone avant le 1er septembre. Une victoire donc et un répit pour les associations et les militants opposés à l'autoroute entre Toulouse et Castres, qui portaient justement cet argument depuis des mois dans la presse et devant les tribunaux pour tenter d'interrompre les abattages. Mais visiblement, la préfecture, elle, n'en avait cure. Les trois derniers écureuils sont donc descendus. Ils s'appelaient Anna, Reva et Mira. Ils sont descendus avec leurs cordes depuis leur hamac et petit plancher de fortune perché en hauteur dans les arbres. C'était vers 14h ce dimanche, après 40 jours perchés dans leur cabane. On dirait presque un récit mythologique. Des conditions extrêmement rudes hein, pour eux, puisqu'ils étaient privés de ravitaillement et harcelés par les forces de gendarmerie. Insultes et bruit la nuit pour les empêcher de dormir. Lumière, ils en sont finis par manger des bourgeons d'arbres avec du sel, je crois, pendant les dernières semaines. En tout cas, ils étaient très attendus au sol par une foule importante, et c'est ce qu'ils ont d'ailleurs tenu à dire tout de suite. On n'aurait jamais tenu sans la solidarité et le soutien qui se sont manifestés au sol. De nombreuses personnes se relayaient autour de ces écureuils pour les remercier de leur action et leur amener aussi un petit peu de pain à grignoter. Sans cette occupation, les arbres auraient été probablement abattus, reconnaît cette cette grimpeuse. Cela nous donne de l'espoir pour la suite de la lutte et légitime encore plus notre combat contre l'autoroute. Un des autres écureuils qui était situé de là à quelques mètres, Reva, qui s'était rendu à Bruxelles la semaine dernière, je vous en avais parlé, a lui aussi fait sa descente en rappel depuis son platane. Des cris de joie fusés, des fumigènes craqués pour fêter ça, et l'émotion était palpable, le tout quand même entouré des médiateurs et des gendarmes. Donc accueillis comme des héros, ces écureuils, alors que les opposants à l'autoroute se battaient jour et nuit, au sol et dans les arbres, pour sauver cette forêt de la crémade, c'est finalement une mésange, en fait, qui est parvenue à faire reculer la préfecture du Tarn. On dirait une BD de... On dirait presque une petite BD avec les mésanges, là, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle. Donc en fait, cette mésange a réussi à faire reculer la préfecture, son impressionnant dispositif policier et le concessionnaire du projet à Tosca, car une militante dans les arbres, la semaine dernière, a transmis des photos et des vidéos d'une mésange bleue en train de nidifier, une mésange qui faisait son petit nid, et ça a été le grain de sable qui a permis de faire basculer la machine. En effet, les experts de l'Office français de la biodiversité sont passés sur le site mercredi dernier pour constater la présence de cet oiseau, ils l'ont attesté, ils ont été auditionnés ensuite par la préfecture, et ils ont donc déclaré logiquement que la nidification de cette mésange rendait illégal tous travaux de défrichage avant le 1er septembre. Il faut continuer à se battre sur tous les fronts. Je suis convaincu qu'une très longue série de victoires se profile, a lancé un des grimpeurs à la foule avant de partir certainement se restaurer, prendre une douche et retrouver ses amis. On reste dans les colonnes de reporters où on peut lire qu'un constat alarmant sur le partage de la ressource en eau vient d'être remis. C'est l'UNESCO qui estime que 2,2 milliards de personnes n'ont pas accès à une eau potable sûre. C'était le rapport annuel de l'UNESCO qui a été publié ce vendredi 22 mars, et c'est un des gros chiffres qui émarge ces pages. C'était en effet vendredi 22 mars, en plus la journée mondiale de l'eau, donc l'occasion de mettre l'accent sur cette ressource de plus en plus rare pour les habitants de la planète. Et les premières victimes de ce manque d'eau sont les femmes et les filles, selon l'UNESCO. En effet, ce sont elles qui, dans les zones pauvres et rurales, sont chargées de la collecte de l'eau, facteur d'abandon scolaire pour les jeunes filles, qui accentue par la suite leur vulnérabilité. Dans ce rapport, l'UNESCO indique aussi qu'une meilleure coopération internationale en matière d'accès à l'eau douce jouerait un rôle non négligeable dans l'amélioration de leur quotidien. Voilà quand on vous disait qu'il fallait parler d'écoféminisme. Et sinon, les inégalités risquent de s'accroître encore, puisque l'agence qui dépend de l'ONU le reconnaît. L'objectif de garantir l'accès à l'eau potable à tous d'ici à 2030 est loin d'être atteint. Il est même à craindre que les inégalités continuent de s'accroître dans ce domaine. Oui, parce que moi j'avais entendu une brève aussi dans un autre média où disait oui, les gens n'ont pas encore accès à l'eau, comme si les choses allaient s'améliorer. Mais c'est pas forcément ce que prédisent les experts. Par ailleurs, les inégalités dans la répartition des ressources en eau, dans l'accès aux services d'approvisionnement et d'assainissement, sont des sources de tensions qui peuvent elles-mêmes exacerber l'insécurité hydrique, alerte encore ce rapport. Les auteurs du rapport considèrent ainsi que les stratégies de partage des ressources en eau sont trop souvent négligées par les États. Par exemple, sur les 153 pays qui partagent des cours d'eau, des lacs ou des eaux souterraines, seuls 31 d'entre eux ont conclu des accords de coopération pour au moins 90% de la superficie de leur bassin transfrontalier. Ce qui veut dire par exemple qu'un pays qui a une rivière qui coule et qui alimente un autre pays, s'il met un barrage et qu'il n'y a pas eu d'accord avant par exemple, et il peut faire ce qu'il veut. Et l'autre pays n'aura plus qu'à pleurer avec des larmes de sable. Ah tiens, on est dans l'eau, on y reste, on va aller voir justement à Sainte-Soline, puisque je vous le disais, ça fait un an que la grande manifestation a eu lieu dans les Deux-Sèvres. On en est où de cette histoire de méga-bassine? Où en est le projet, notamment, de méga-bassine contre lequel tous ces manifestants s'étaient rassemblés il y a un an? La mobilisation des associations ne faiblit pas, en tout cas sur place. Entre batailles juridiques, inspections régulières du chantier et manifestations locales, les soulèvements de la terre, qui existent encore, ont notamment organisé un rassemblement ce week-end à deux pas de Sainte-Soline. Leur objectif, maintenir la mobilisation et dénoncer la politique de terreur appliquée par un gouvernement violent et irresponsable. Le collectif Bassine Non Merci, lui, entend déposer d'ailleurs plainte contre Gérald Darmanin, qu'il accuse d'avoir menti sous serment devant sa commission d'enquête parlementaire quand il a répondu de la manifestation et de sa répression très violente du mois de mars 2023. Bon, à côté de tout cela, pendant ce temps, la construction justement de la méga-bassine de Sainte-Soline, que les agriculteurs maintenant appellent retenue de substitution dans les médias, eh bien, cette méga-bassine se poursuit. Elle n'est pas totalement terminée, mais il ne reste plus qu'à poser la bâche sur une dernière partie, expliquait notamment au Huffington Post François Pétorin, qui est agriculteur et administrateur de la coop de l'eau 79, qui est en charge de ce projet. Le chantier, dit-il, a été retardé par les récentes intempéries, mais aussi par la mobilisation l'an dernier, qui avait tout mis en pause pendant une quinzaine de jours, mais donc tout avance pour lui. Bon, reste que malgré tout, les travaux vont devoir s'arrêter très prochainement. Là encore, pour protéger une espèce, puisque le lieu d'implantation de cette bassine est classé dans une zone Natura 2000, oui, oui. Par conséquent, il y a interdit d'effectuer des travaux pendant la période de nidification des oiseaux, là encore, qui, vous le savez maintenant, s'étend jusqu'au 1er septembre. Ça va de début avril à la fin du mois d'août. Les travaux de cette bassine reprendront donc en septembre avec l'intention d'effectuer un premier remplissage de la retenue pour cet hiver 2024-2025. En effet, pour remplir ce réservoir géant, on parle d'une capacité de 628 000 m3 d'eau, c'est à peu près 250 piscines olympiques hein, en termes de volume. 9 pompes ont été installées. Ces pompes sont censées prélever l'eau dans les nappes phréatiques peu profondes en hiver, puisqu'elles remontent à son gorgé d'eau lorsqu'il pleut beaucoup, et censées la stocker pour l'utiliser en été afin d'irriguer les cultures de 12 exploitations agricoles quand il fera sec. Si cette bassine de Sainte-Soline était particulièrement visée par les militants, c'est justement parce qu'il s'agit de la plus grosse de ce programme local. C'est pas la seule. Au total, il y a 16 bassines prévues sur cette zone. Les trois autres réservoirs, d'ailleurs, ont des capacités plutôt autour de 450 000 m3. Et celle-là, je vous le disais, faisait 628 000 m3, donc c'est quand même beaucoup plus gros. Sur les 16 bassines qui sont prévues dans ce projet, une seule est fonctionnelle pour l'instant, c'est celle de Mauzé-sur-le-Mignon, et trois devraient donc l'être à l'automne 2024, celle dont je viens de vous parler, celle de Sainte-Soline, mais aussi à Prières, pour un volume de 160 000 m3, et celle de Épane, qui devrait faire 230 000 m3. Si donc le porteur du projet, la coop de l'eau des Deux-Sèvres, fait valoir que ce bassin de Sainte-Soline permettra de faire baisser de 70% les prélèvements d'eau en été, les associations pointe au contraire un accaparement de l'eau au bénéfice d'un petit nombre d'agriculteurs du modèle agricole intensif. À plusieurs reprises, d'ailleurs, des scientifiques ont pris position ces derniers mois pour souligner que les méga-bassines ne constituaient pas une solution durable face au changement climatique. À l'inverse, ces scientifiques prônent ce qu'ils appellent l'hydrologie régénérative, soit des solutions par la nature pour maintenir l'eau dans le sol, plutôt que de les foutre sur des bâches à l'air libre. À Sainte-Soline, par exemple, cela peut se traduire par la restauration du marais Poitevin et le retour des prairies. Forte de ces arguments, les associations ont donc déposé plusieurs recours devant le tribunal administratif pour tenter d'annuler le projet des 16 bassines qui sont prévues dans les Deux-Sèvres. Actuellement, on attend un passage devant la cour d'appel de Bordeaux entre juin et septembre, ce qui nous donne bon espoir d'annuler le projet. Ça, c'était Mélissa, qui est porte-parole du collectif Bassines Non Merci de la Vienne, qui parlait toujours dans les colonnes du Huffington Post. Les recours donc s'appuient sur plusieurs arguments. Je vous le disais, l'accaparement de l'eau, des conflits d'intérêts entre les personnes qui ont mis le projet en place et peut-être les agriculteurs qui vont en bénéficier, et les absences de dérogation pour de nombreuses espèces. La méthode d'ailleurs peut fonctionner, hein, puisque fin 2023, la mobilisation d'autres associations avait permis d'annuler la construction de 15 mégabassines à côté en Poitou-Charentes, grâce à deux décisions du tribunal administratif de Poitiers. Il faut ajouter à tout cela encore une plainte déposée en janvier dernier par la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, et une dizaine d'autres associations auprès du tribunal judiciaire de Niort cette fois-ci. Selon ces associations, la présence sur le site de la méga-bassine d'une espèce d'oiseau bien particulière, l'outarde canepetière, pourrait peut-être faire basculer le dossier. L'outarde canepetière, c'est une espèce en danger d'extinction, avec une population qui a diminué de 95% entre 1976 et 2000. Nous avons porté plainte pour destruction d'habitats d'espèces protégées, car les travaux ont été exécutés sans avoir obtenu la dérogation nécessaire, pointaient donc les associations. Et c'est d'ailleurs cet argument qui a été retenu par le CNCP, le Conseil National de Protection de la Nature. C'est une instance qui est rattachée au ministère de la Transition écologique, qui s'est d'ailleurs auto-saisie de ce dossier dès qu'il en a eu vent. dans son avis qui était rendu en décembre. Il estimait ainsi que les travaux de la méga-bassine de Sainte-Soline avaient conduit à la destruction d'un minimum de 17 hectares d'habitat naturel de cette fameuse outarde canepetière et que ces travaux avaient eu des conséquences permanentes défavorables sur l'espèce en danger d'extinction.
Ah ouais, carrément.
Qu'est-ce qu'il fout en milieu rural aussi ?
Allez, on continue avec les actions de ces militants écologistes et certains d'Extinction Rébellion qui se sont déguisés en clowns et ont organisé des goûters d'anniversaire pour fêter les 100 ans du groupe Total. La direction de Total Energy, on l'a appris, a déposé plainte ce samedi après l'intrusion d'une soixantaine de militants donc d'Extinction Rébellion sur un site de la raffinerie Total Energy de Donges, on est en Loire-Atlantique. Ces militants étaient déguisés en clowns pour dénoncer les clowneries du géant pétrolier. Ils ont donc investi la raffinerie, ils ont pu rentrer dedans pendant un peu moins d'une heure avant d'être raccompagnés vers la sortie par les gendarmes et des agents de sécurité. Alors, hormis, on va parler un petit peu de leurs arguments pour fêter l'anniversaire de Total, mais quand même, c'est une intrusion qui s'est faite sur un site classé Céveso. Ça interpelle sur le côté sécuritaire, selon Marin Guillotin, qui fait partie du syndicat Force Ouvrière. Alors que le plan Vigipirate de la France vient de passer en urgence attentat depuis ce dimanche, ce syndicaliste s'interroge par où sont passés les militants, est-ce que ça peut se reproduire ? Et la CFDT a de son côté d'ailleurs demandé à la direction de la raffinerie la tenue d'un CSE, un comité social et économique extraordinaire, pour parler de l'intrusion. Il aura lieu ce jeudi après-midi. Sinon, pour ce qui est l'activité de cette raffinerie, c'est la DZRP, l'Association Dongeoise des Zones à Risque, qui rappelle que la raffinerie est fermée depuis la fin de ce mois de février et qu'il y a une mise en demeure de l'État en raison de risques de fuite et de défauts dans la sécurité anti-incendie. L'usine est donc assez dangereuse. Elle est censée rouvrir début avril après des travaux, mais le fait que les activistes d'Extinction Rébellion et puis rentrer dedans, et ben justement, c'était peut-être une manière pour eux de prouver que les sites Céveso ne sont pas si sécurisés qu'on le dit. Cela rejoint notre combat local, explique la porte-parole de cette association, avec un industriel qui continue à polluer, à ne pas respecter les règles de sécurité et à mettre en danger ses salariés et la population. Et dans les faits, donc pour revenir à cet anniversaire, c'était ces samedis 23 et dimanche 24, il y a eu plusieurs actions menées par Extinction Rébellion pour justement célébrer le 100e anniversaire de Total Energy. Il y a eu un rassemblement notamment devant la raffinerie de Gonvreville-Lorcher, on est à côté du Havre en Seine-Maritime. Le groupe Total Energy a annoncé pour 2023 des profits historiques de près de 20 milliards d'euros, en grande partie grâce à la vente de pétrole et de gaz. Trois fois plus d'argent est allé dans la poche de ses actionnaires que dans les investissements qui seraient utilisés pour produire de l'énergie dite bas carbone. Donc voilà, plus de dividendes que d'investissements sur une énergie décarbonée. C'est ce qui fait notamment que Total Energy se retrouve souvent en tête de liste pour les cibles de justement ces actions écologiques. Dans la suite de cette action, d'ailleurs, la campagne Carnage Total prévoit de se mobiliser à nouveau ce 24 mai pour pousser la multinationale fossile à renoncer à ses nouveaux projets qui ont lieu en Afrique, je crois que c'est du côté de l'Ouganda, mais aussi en Papouasie. Et ils espèrent bien, les militants, lui faire abandonner tout court l'exploitation des énergies fossiles.
L'espoir est la base de toutes les rébellions.
Mais il n'y a aucun espoir.
Moi, je dis qu'il faut se battre.
Et c'est pas faute de vous avoir parlé de sécheresse et de gros problèmes en eau. Et ben on va terminer par un petit point météo quand même, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué. On est dans un gros épisode de Cévenol, de la pluie, du vent et des vagues. C'est le cocktail classique de ce qu'on appelle un épisode méditerranéen. Après, à la radio, des fois, ils disent Cévennes, épisode Cévenol. Quand on parle de nous, en général, à la radio, c'est qu'il va pleuvoir. Ça fait la cinquième fois de cette saison que ce phénomène météo touche la plaine languedocienne et les Cévennes. Météo France a placé l'Hérault en vigilance vague submersion pour le littoral pour cette journée du mardi 26 mars. En effet, de fortes vagues hautes de 3 à 5 mètres sont annoncées dès ce matin, il faut donc s'attendre à une surélévation importante du niveau de la Méditerranée et un risque de submersion sur le littoral. Pour ce qui est des pluies et notre arrière-pays, d'importantes précipitations sont en cours déjà et toujours attendues, avec des rafales aussi de vent à 80 km/h. La houle d'est à nord-est se propagera jusqu'au littoral du Roussillon. Il devrait tomber entre 40 et 60 mm de pluie sur l'est de l'Hérault et le Gard et près de 100 mm sur les Cévennes. Toutefois, on restera sur un épisode Sevenol, mais qui n'aura pas un caractère exceptionnel. Donc, a priori, pas trop de dégâts, on l'espère. Selon d'ailleurs Météo Languedoc, c'est pas fini, les amis. Un nouvel épisode pourrait sévir autour de Pâques, le week-end de Pâques. Et là, cette fois-ci, peut-être encore plus fort. Donc, les œufs, faudra bien les emballer. Le périmètre reste à définir dans la semaine. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que des pluies seront probables donc pour le week-end de Pâques. Et voilà, c'était pas Marie-Pierre Planchon, c'était toujours Antoine pour les Nouvelles du Monde. Et on se quitte là-dessus. Bah écoutez, profitez de votre intérieur douillet si vous avez la chance d'en avoir un. Et puis bah sinon, bon courage si vous êtes sur la route, notamment avec les pluies. Allez, bonne soirée, bon après-midi. On se retrouve jeudi pour d'autres Nouvelles du Monde. Et d'ici là, portez-vous bien.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Des Nouvelles du Monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interviews, communiqués. Les Nouvelles du Monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Oh, mais que se passe-t-il ? Mais que se passe-t-il ? Oh, mais qu'est-ce qui se passe ?
Les Nouvelles du Monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.